grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Merci de votre fidélité au studio Tamani. Bonsoir à tous, bienvenue au Grand Dialogue. Le Forum de la presse reçoit aujourd'hui trois confrères journalistes pour débattre des questions d'actualité de la semaine qui s'écoule. Il s'agit de Togola Awasemega de Kunafuni.com, de Yaya Koulibaly, directeur de la radio Nassira Oulé, et d'Ami Baba Sissé de la radio Sénin RFM. Ils vont nous parler des négociations d'Alger entre le gouvernement et les groupes armés, de l'accord de coopération militaire entre l'Union européenne et le Mali, du nouveau rapport de l'OIM sur les déplacés et des récents affrontements dans les sites miniers. Vous avez Sira Batilé au micro, Salim Djouara est de l'autre côté de la technique. L'actualité qui a dominé cette semaine, ce sont les négociations annoncées entre le gouvernement et les groupes armés. Ces pourparlers doivent se dérouler à Alger le 16 juillet prochain. Ils vont se retrouver donc autour d'un facilitateur algérien. Chers confrères, bienvenue à vous. Honneur aux dames, nous allons commencer par Madame Togola. Que faut-il attendre de ces négociations? Vous pensez qu'elles vont tenir?
Je pense que ces négociations vont tenir. Parce que d'abord, l'Algérie a de tout le temps joué un rôle important dans les négociations, même si beaucoup de Maliens voient en Algérie un problème. Elles permettront, je pense, de corriger ce qui n'a pas marché dans les accords de Ouaga. Mm-hmm. Et cela renforcera également le lien, en fait.
Mmh. Voilà. Alors, Yaya Koulibaly, directeur de la radio Nassira Oulé, que pensez-vous de ces négociations? Vous êtes optimiste?
Merci, Sira. C'est pour parler en Algérie, je suis sûr que c'est la solution, quelque part ici, elle est bienvenue, ces négociations. Mmh. Alors, on peut quand même pour le moment compter sur l'impartialité de ce qu'on appelle les médiateurs, hein, à côté algérien surtout, et surtout ceux qui sont entre nous, la communauté internationale, je parle de l'AMINUSMA, je parle de la CEDEAO, alors je parle de l'UIA. Si ceux-ci jouent réellement leur rôle d'impartiaux, alors en général, il y a ce qu'on appelle de l'espoir.
Et c'est votre avis également?
Bonsoir d'abord à tous les auditeurs. Mm-hmm. Moi, je n'ai peut-être pas la même approche que mes confrères. Je serais beaucoup plus mitigé en disant que les accords d'Alger sortiront le Mali de cette impasse. Parce que si nous essayons de voir, depuis que cette crise a commencé, l'Algérie n'a pas montré le bout du doigt. Et maintenant que nous sommes en position de faiblesse, parce que dans un pays où l'armée est abattue, les autorités même décrètent le cessez-le-feu, c'est un pays qui va étant fortement handicapé.
Donc vous n'êtes pas optimiste par rapport au pourparlers?
Je suis mitigé.
Pourtant, l'Algérie et le Burkina ont décidé même de coordonner leur médiation pour que la négociation puisse aboutir. Malgré tout, vous n'êtes pas optimiste?
Justement, à partir du moment où on revoit Blaise Compaoré qui va peut-être reprendre une position beaucoup plus stable, ça me rend beaucoup plus mitigé. Parce que le passé de Blaise, selon la majeure partie quand même des gens qui nous appellent, pense que si Blaise est dans l'affaire, c'est encore difficile que ça soit géré comme il le faut.
En fait, moi, je pense que l'Algérie a une grande expérience en matière de négociation. Surtout, l'Algérie connaît très bien le nord du Mali. Mm-hmm. Et je pense que là, ils ont intérêt à ce que ces négociations soient bien menées, parce qu'il y a le Maroc qui se mêle à la danse. Donc, pour qu'ils connaissent le différent entre... Je ne dirais pas entre guillemets le différent entre l'Algérie et le Maroc, parce que le Maroc également veut être là en tant que médiateur. Donc je pense que l'Algérie va profiter réellement de ces négociations-là pour pouvoir les mener à bien et être leader en matière de...
L'Algérie va vouloir donner l'exemple.
Exactement.
D'accord. Mmh. Est-ce qu'on peut espérer une volonté partagée entre les autorités maliennes et les groupes armés?
Volonté partagée, oui, mais quelque part, moi, j'ai des réserves, hein, parce que si on essaie de voir, hein, les rebelles, surtout les Menelas, c'est des gens qui sont très formés en termes de négociation. Ils connaissent ce domaine. Alors, pour que le gouvernement malien puisse en sortir grand, il faut que, alors, il y ait des gens qui soient envoyés à ces négociations, des gens qui maîtrisent le domaine. Parce que négocier la vie d'une nation, c'est compliqué, surtout le nord du Mali. Et aujourd'hui, les rebelles du Menela, alors, sont ragaillardis, ils sont forts, en fait, dans leur tête. Ils se disent que, quelque part, ils vont obtenir une autonomie. Et le Mali, d'autre côté, alors, est strict. Alors, la laïcité, oui. L'indivisibilité du Mali. Et ces choses ne sont pas les visions des rebelles aujourd'hui. Et il faut que réellement le Mali, quand je dis le Mali, je parle du gouvernement malien, s'arme de négociateurs aguerris, pas comme ceux de Ouagadougou, hein, honnêtement. Pas comme ceux de Ouagadougou, des gens vraiment mûrs. Quand je dis mûrs, ce n'est pas en termes d'âge, mais en termes d'expérience, qui savent négocier pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, alors, une autonomie pour le nord du Mali, ce serait quand même très grave, sinon même humiliant pour le peuple malien. Donc, ça peut bien aller, comme l'a dit Sémégua, si réellement alors, l'Algérie se donne la vraie volonté de faire une négociation impartiale et de donner à César ce qui est à César, alors il y a de l'espoir. Mais si la pression internationale alors, existe et résiste et persiste surtout, je pense que nous partons et nous revenons comme ça a été à Ouagadougou.
Alors, ami Baba Cissé.
Mais vous savez, quand on essaie de voir la position de l'Algérie, on ne peut pas se fier à ce que l'Algérie va nous proposer. Même cette intervention militaire qui a eu lieu, il a fallu qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour que l'Algérie puisse accepter. Alors que pendant ce temps, le Mali était à feu et à sang. Donc moi, je ne me fie pas trop à l'Algérie. Par rapport maintenant aux gens du MNLA, nous sommes sûrs que certains sont des gens très forts. Nous les avons déjà vus élaborer un statut particulier pour l'Azawad. Et tous les groupes armés aujourd'hui ont un dénominateur commun qui est le mot Azawad. Et l'État malien n'aurait pas dû accepter ce terme parce que c'est sûr et certain, chacun a sa position à défendre. Et c'est l'histoire qui nous dira ce qui sortira de ces négociations. Parce que moi, je suis sûr et certain que le MNLA, qu'on le dise ou pas, a des bras.
Mais ces groupes dont vous parlez aussi sont fragmentés aujourd'hui vu les combats sur le terrain entre le MAA et le MNLA. Est-ce que cela n'est pas un facteur de blocage dans ces négociations?
C'est des gens qui savent s'unir lorsqu'il le faut. Rien ne les unit. Mais le mot Azawad aujourd'hui les unit. S'ils doivent combattre l'État malien...
C'est le seul facteur?
Bon, pas le seul facteur. Aujourd'hui, si on essaie de le voir entre eux, c'est vrai, ils ne s'entendent pas. Mais s'il s'agit de défendre des valeurs qu'ils ne partagent pas, parce que les mouvements arabes, c'est des gens qui sont beaucoup plus basés dans la région de Tombouctou. Alors que les MNLA, ils sont beaucoup plus à Kidal. Donc, il y a bien une question de géographie qui les sépare, mais aussi il y a une question de mentalité, parce que ce que le MNLA veut souvent, c'est s'approprier les victoires qu'il a acquise avec la contribution de ces mouvements, souvent ces mouvements ne les
accueillent pas. Alors, Madame Togola, les déclarations alarmantes du gouvernement à propos du non-respect du cessez-le-feu au nord, est-ce que cela n'est pas quelque part, ça donne pas l'image que les négociations ne vont pas aboutir? Même si elles aboutissent, leur application est tout autre.
C'est clair que l'application sera très compliquée, les discussions seront très, 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 très chaudes. Mais je pense que ces négociations doivent se tenir parce que c'est important que chacun s'écoute, chaque partie s'écoute. Et maintenant, en fonction de cela, on verra ce qu'il y a lieu de faire.
Vous pensez qu'il y a une volonté partagée entre le gouvernement et les groupes armés? Vous pensez que les groupes armés sont de bonne foi?
Je ne dirais pas.
D'accord. Les rapports de force, on en avait parlé entre les groupes armés. Vous pensez que c'est un facteur de blocage?
Je pense que ces groupes armés sont les mêmes, mais moi j'ai toujours dit depuis le début de la crise, j'ai de la peine à dire MNLA, HUIA, MAA, Ansar, Dinjin, c'est quoi? Ce sont les mêmes en fait. C'est des gens qui se retrouvent, s'ils ont un intérêt en commun. On se rappelle le départ d'Oumara sur Kidal. Mais on ne sait pas qui est-ce qui a combattu notre armée, hein, on ne sait pas. C'était le MNLA, c'était le MAA, c'était le Ansar Dine, c'était tout à la fois en fait. Aujourd'hui, si on nous dit que alors Ansar Dine, disons MAA et MNLA sont en conclave, disons sont en confrontation bien sûr au nord du Mali à Gao, et qu'il y a des morts côté MNLA et alors MAA, voyez, ça distrait le peuple malien.
C'est moi, la poudre aux yeux,
ça distrait. Moi, je pense que nous devons être très sereins. Alors, on doit regarder droit vers ce que nous voulons. Nous voulons que le pays soit indivisible et il le sera. Point barre. Maintenant, qu'on ne nous dise pas... D'ailleurs, moi, je suis frustré quand j'entends le mot MNLA parce qu'en fait, il n'existe pas. Qu'on soit réaliste, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que nous, Maliens, qu'on dise que réellement, ceux qui sont censés être nos soutiens, qu'ils soient des vrais soutiens pour nous.
pour le moment, ils ne le sont pas. Je vais être clair. Et la France et la MINUSMA, c'est des gens qui sont là, qui sont à la solde de la du MLA et je sais pas de tous ces mouvements armés. Donc, je ne pense pas. Nous devons aller à Algérie sans voir alors les rapports entre ces mouvements. Ça les regarde, c'est leur affaire à eux. Mais nous, on a des choses très claires.
Mais puisqu'on doit discuter avec eux, il serait bien aussi de connaître leur avis.
Oui, leur avis, déjà, on le sait. Hein. Le MNLA a toujours montré qu'ils veulent l'autonomie. Et je sais qu'ils partent avec cette question d'autonomie. Malgré tout ce qu'on va dire là, ils veulent être autonomes. Et moi, j'ai d'ailleurs très peur.
Peut-être que c'est négociable.
Pas du tout, en fait. Si ça l'est... Mais vous n'êtes pas allé à Algérie, il faut rester au Mali, il faut trouver une autre solution. Si réellement on peut aller négocier une autonomie de, c'est pas de l'Azawad, mais vous n'êtes pas allé à Algérie ou au Maroc, nulle part. De toutes les manières, je pense que nous devons être très très clairs avant d'aller avec qui ? Avec la communauté internationale, la MINUSMA, je répète, la France, qu'ils aillent jouer leur rôle vraiment d'intermédiaire.
Alors, ami Baba Cissé, il y a l'opposition qui a souhaité que le gouvernement consulte les partis politiques avant d'aller à Alger pour qu'on trouve une feuille de route ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, moi, je pense qu'à l'allure où vont les choses, tout le monde a son droit de regard dans la situation du pays. Et l'opposition n'a pas pratiquement la même considération que dans certains pays. Puisque si vous essayez de voir aujourd'hui, l'opposition n'a pas la parole au même titre que la majorité. Elle est obligée de passer par les médias privés pour s'exprimer. Mais ce qui est sûr, il y a des hommes valables, des hommes capables aujourd'hui de relever le pays et qu'on applique ou pas ce qu'ils vont dire ou bien ce qu'ils vont penser, je crois qu'on doit les écouter.
Madame Tourola, vous pensez que le gouvernement doit consulter les partis politiques avant d'aller à Alger pour un document qui servirait de base pour les négociations?
Oui, c'est clair. Ces négociations ne peuvent se faire sans la classe politique. C'est extrêmement important que cette démarche du gouvernement. Là, je pense qu'une bonne solution en sortira.
Alors, on va continuer sur cette lancée de solutions avec vous.
Par rapport à l'opposition, M. Rabatili, pardon.
Je rappelle que c'est Yaya Koulibaly de la radio Nasraoui, le directeur.
Moi, j'ai un problème très sérieux avec l'opposition malienne. Vous savez, l'opposition demande toujours qu'elle soit consultée. Mais moi, je pense que c'est une volonté nationaliste qui doit animer d'abord l'opposition. Nous, on a toujours eu une opposition criarde, qui crie sur tous les toits, qui tape sur la table, mais qui ne propose presque jamais. L'opposition aujourd'hui, c'est qui? C'est ces partis-là, comme le Parena, comme l'ERD, alors comme Far Ankaouli. Voilà, la première des choses, c'est l'opposition qui devrait aller vers le gouvernement. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers le gouvernement. En tant que Malien, ils doivent aller vers le gouvernement. Moi, je n'ai vu nulle part l'opposition rejetée, non. Mais j'ai vu, le gouvernement veut, en fait, l'opposition veut que le gouvernement, alors... appel au secours de l'opposition. Ça ne marche pas comme ça. Mais je reste sûr et certain que l'opposition a son mot à dire si réellement elle a la volonté alors, d'appuyer alors, le système pour que nous puissions sortir de ce problème-là. Mais réellement, qu'elle soit une opposition ouverte, qu'elle ne pense pas que voilà, donc il faut toujours taper sur la table, il faut toujours dire, c'est nous l'opposition, il faut venir vers nous, ça ne colle pas.
D'accord, on va observer une minute de pause et puis nous revenons après.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez le Studio Tamani sur 24 radios à travers tout le Mali. C'est le forum de la presse avec Togola Awasemega de Kunafoni.com et à Koulibaly, directeur de la radio Nassira Oulé, et Ami Baba Cissé, directeur également de la radio Séné RFM. Le deuxième thème que nous allons aborder est l'accord de coopération militaire entre le Mali et l'Union européenne à travers la mission ECAP Sahel. C'est une équipe de 25 experts européens qui est arrivée à Bamako pour renforcer les actions de soutien de l'Union européenne aux forces de sécurité maliennes. C'est à la demande du gouvernement que cette équipe, formée de spécialistes des fonctions de police, de gendarmerie et de garde nationale, doit séjourner dans notre pays pour définir le contenu d'une multitude d'activités de formation et de conseil. Yaya Koulibaly, alors que peut-on attendre là aussi de cet accord dit de coopération militaire avec ECAP Sahel?
Accord de coopération militaire, oui, parce que la coopération, c'est toujours bien de coopérer avec, n'est-ce pas, d'autres nations. Mm-hmm. Mais sur ce plan, on entend beaucoup de choses. Des fois, on parle d'accord de défense, des fois, on parle d'accord de coopération militaire. J'ai dit qu'on nous dise de quoi il s'agit.
Oui.
Parce que si c'est un accord de défense, moi, j'ai dit non. Aucun pays ne peut...
Je crois que c'est axé surtout sur la formation des policiers et des gardes.
Ah oui, si c'est ça, j'ai dit que c'est une bonne chose qu'on vienne former alors nos agents qui ont alors manque de formation, c'est une vérité, il faut l'admettre, mais je reste sûr, hein, je reste même là un peu perplexe tant que le contenu de cet accord n'est pas publié, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, vraiment ça me donne beaucoup de réserves. C'est pourquoi j'ai toujours dit que oui, il est très bon de signer un accord de coopération militaire parce que ça permet, n'est-ce pas, au Mali d'avoir des amis, et d'avoir des formations, d'avoir du matériel, d'avoir du soutien. Donc c'est une très bonne chose si réellement elle est faite avec la volonté alors du gagnant-gagnant. Mais s'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas, donc il y a des soucis. Donc on nous fasse d'abord voir le contenu de ce document pour qu'on se prononce, quoi.
Alors, Madame Togola, quel est votre avis là-dessus?
Moi, je pense que l'accord est important parce que le Mali a réellement besoin de renforcer son armée, surtout après les déboires que tout le monde connaît. Donc, il faudrait également clarifier cet accord-là. Et le plus important, c'est que l'Assemblée nationale doit jouer son rôle. La population n'a plus confiance à la classe politique. Et la classe politique qui est là, parce qu'elle est, on va dire, quasiment inactive, passive, quoi. Et là, parce que cet accord-là devra passer par l'Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale qui va le valider. Et là, c'est extrêmement important que l'accord soit bien étudié, très très bien étudié, avant le vote. Voilà.
D'accord. Et le revers pose-t-il le problème de l'efficacité de la formation de nos forces armées, Monsieur Ami Baba Cissé?
Évidemment, lorsqu'on voit cette débâcle de l'armée malienne le 21 mai, des gens qui sont sortis directement d'un camp de formation, la même Union européenne les a formés, et on a vu comment est-ce que ça a tourné sur le terrain, ça nous permet de poser des questions. Maintenant, par rapport au Mali, nous savons tous que c'est un pays qui est en situation d'insécurité, et cette situation transforme le Mali même comme menace pour les autres pays. Donc c'est pourquoi le monde entier aujourd'hui est obligé de venir chercher, ou bien disons d'essayer d'étouffer le danger dans l'œuf, parce qu'il faut depuis la source là arrêter cette menace, parce que le terrorisme, le djihadisme aujourd'hui sont en train de se développer au Mali. Donc les Européens, les Occidentaux ne peuvent pas regarder ça de là où ils sont. Ils sont obligés de venir aider le Mali à venir à bout de cette situation.
D'accord. Yaya Koulibaly de Radio Nassira Oulé. Est-ce que l'armée malienne est-elle en mesure aujourd'hui de recouvrer l'intégrité territoriale, la sécurité au nord, notamment à Kidal?
Là où nous sommes, on peut douter. On peut beaucoup douter parce qu'on ne sait pas qui est l'ennemi en face. En toute vérité, moi j'ai toujours confiance en l'armée malienne. J'ai toujours dit que c'est une armée très forte, malgré des problèmes qu'elle rencontre par-ci, par-là. Je n'ai pas pris comme référence alors la débâcle du 21 mai, parce que j'ai vu des mains presque invisibles. Moi, je l'ai quand même pressenti comme beaucoup de Maliens. Cela a montré à beaucoup de Maliens que l'armée malienne est encore immature, qu'elle n'est pas en mesure de recouvrir l'intégrité alors du territoire malien, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais en toute vérité, aujourd'hui, j'ai des doutes. C'est vrai, Il y a question, n'est-ce pas, de formation de l'armée malienne, mais aussi il faut faire confiance à ces jeunes, à ces hommes, et aller vers leur formation, c'est d'accord, mais ne pas imposer au Mali une coopération militaire.
D'accord. Ouais. Ami Baba Cissé veut réagir.
Oui, je voudrais réagir parce qu'il faut souligner surtout la France, parce que la France est l'une des unités centrales de l'Union européenne. Parce que peut-être il y a des choses que la France ne peut pas directement exposer au Mali, donc elle peut peut-être passer par l'Union européenne, et sur ce plan-là, ça peut passer. Donc je suis sûr et certain qu'ils ont un cachet dans cet accord de coopération qui va être signé.
À propos de la France, justement, il y a l'accord de défense qui tarde à venir. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Qu'est-ce qui se passe au fait?
Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe réellement, parce que jusqu'à
présent... Qu'est-ce qu'on peut soupçonner?
Ce qu'on peut soupçonner, ce qui est sûr, l'Algérie n'est pas d'accord. L'Algérie ne serait pas d'accord avec cet accord parce que la stabilité du Mali peut aboutir à l'instabilité de l'Algérie. Et une base française...
Pourtant, les négociations vont se dérouler à l'Algérie.
Justement, c'est pourquoi je me dis que bon, l'Algérie peut torpiller les négociations dans ce contexte. Parce que je suis sûr et certain qu'une base militaire, pour moi, ce n'est pas un tabou. Nous avons besoin d'une base militaire aujourd'hui pour que le Mali puisse avoir sa stabilité. Parce que certains ne le veulent pas, je suis d'accord. On essaie de voir certains pays africains. Quand on crie à la victoire des Tchadiens aujourd'hui, on est d'accord que c'est la France qui est derrière les Tchad aujourd'hui, même si c'est les intérêts qu'ils défendent là-bas. Et là aussi, ne doutez pas, la France va défendre ses intérêts. Et nous, il nous faut gagner avec ces gens-là. Seulement, il faudrait que l'accord soit gagnant-gagnant.
Alors, Yaya Koulibaly de Nasira Oulé, qu'est-ce qui bloque l'accord de défense finalement?
La France a vu que les Maliens ne sont pas d'accord avec cet accord-là. La France a vu que les Maliens sont hostiles à cet accord-là. Et on se rappelle, je pense que c'est à deux reprises que l'accord a été reporté. Hein. Sinon, le ministre en son temps, Boubey Maïga, avait dit que l'accord sera signé un tel jour. Il a dit, mais ce jour-là, je pense que c'était même bien avant, et le 20 janvier, c'était prévu. Ça s'est encore reporté. Parce que la France a vu que l'opinion nationale, alors, n'est pas d'accord. Parce qu'on a pressenti un intérêt de la France quelque part dans cet accord. Et un intérêt, on dit, hein, il paraît que la France aurait envie d'installer une base militaire à Tessalit. Mais si c'est ça, les Maliens ne peuvent pas l'admettre. Ça, c'est impossible. Et je pense que, alors, Moussa Mara, quelque part, a dit à Sikasso que, alors, il n'est pas question que la France installe n'importe une quelconque base militaire au Mali. Ça nous rassure, hein. Et je pense que la France aussi n'a pas intérêt alors à signer un accord où elle ne gagne pas de trop, parce que la France, c'est comme ça. Quand elle signe un accord, donc il faut qu'elle gagne, ou même il faut qu'elle suce le sang. Et je pense que les Maliens ont compris que vraiment, tout accord venant de la France et qui compromet le Mali quelque part n'est pas bienvenu. Et la France est en train de regarder petit à petit par la fenêtre. Qu'est-ce que les Maliens pensent de cet accord? Et la France a vu que les Maliens, alors, à 95%, ne sont pas d'accord pour cet accord de défense. C'est pourquoi ça tarde, moi je pense.
Ok. Madame Togola Awa-Sénéga, votre avis sur l'accord de défense qui tarde à venir?
Non, en fait, moi je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Ça devait être signé le 20 janvier. C'était la fête de l'armée malienne. Ça a été reporté au 25 mai, qui a coïncidé avec les événements de Kidal. Et maintenant, on doit signer ça le 16 juillet.
C'est annoncé quand même.
C'est annoncé pour la signer. Je pense que ces accords-là vont se signer. C'est important que ça se...
Vous pensez que les Maliens sont d'avis avec cet accord?
Non, c'est clair qu'il y a, il y a eu assez de critiques. Parce que le Malien n'a plus confiance en fait à la France. Cette confiance-là est biaisée. Et je crois avec cet accord-là, c'est important que l'accord soit signé. En tout cas, c'est important.
Selon vous, est-ce que l'opération Serval aussi doit se poursuivre?
L'opération Serval doit se poursuivre. D'autant plus que le Mali n'est pas encore prêt à ce que Serval quitte le pays. Voilà, je pense que c'est important que...
Il y a beaucoup de mains levées là. Alors, il y a Koulibaly.
Oui, ok, d'accord. Mais moi, je trouve que l'opération Serval n'a plus sa place au Mali. Vous savez, l'aménagement, c'est nous tous, y compris la France. Donc, si c'est pour alors le Mali, que Serval parte et que l'aménagement alors prenne ses responsabilités. Moi, je pense que l'aménagement... Alors, si la France veut aider le Mali, pourquoi elle ne le fait pas sous la coupole de l'aménagement? Pourquoi Serval en tant que tel? C'est vraiment le néocolonialisme. Moi, je pense que la France, à travers Serval, doit partir.
Ça veut dire que vous croyez à l'aménagement?
Plus que la France, plus que Serval. Parce que quelque part, nous, on se revendique alors de l'ONU, c'est clair. Nous sommes aussi des Nations Unies. Alors, donc, ça veut dire que nous sommes aussi de l'aménagement. Mais si une d'entre ces armées doit rester, c'est certainement l'aménagement qui peut rester. Mais la France en tant que telle, en tant que nation, parce que la France est là en tant que qui ? La France est là en tant que colonisateur.
Non, mais je pense qu'en fait aussi, il ne faut pas occulter le fait que c'est grâce à Serval, si, parce que quand il y a eu des problèmes, c'est Serval qui est intervenu en premier. Tous les Maliens ont applaudi quand ils sont venus.
Je suis d'accord. Voilà, c'est méga, c'est là encore le problème. Oui. Bathilde, excusez-moi.
Allez-y.
Regardez un tout petit peu, quand la France est arrivée, la France a bousillé jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Gao, jusqu'à Kidal. Et pendant tous ces combats, l'armée malienne avait pris le devant et c'est la France qui faisait alors le combat aérien. Mais la France est partie d'abord à Kidal, sans l'armée malienne. Et la France a dit aux troupes maliennes de rester à Gao. Pourquoi ? Pour quel intérêt ? Alors, pourquoi la France aujourd'hui, ayant les moyens, ne libère pas le Mali totalement ? Pourquoi elle ne le fait ? Mais pourtant, elle a les moyens. Mais elle n'a qu'à le faire. Donc, quelque part, je ne peux pas être d'accord avec la France et je n'ai aucune confiance, comme beaucoup de Maliens, la France, aujourd'hui, si elle le veut, a les moyens de libérer le Mali à 100%. Mais pourquoi elle ne le fait pas ? Pourquoi alors, elle a toujours, n'est-ce pas, à nous mettre... Non, c'est la France, c'est Serval, je vous dis clairement, c'est la colonisation, nouvelle formule.
Ami Baba, si c'est Serval doit rester ?
Ben, moi, je pense que Serval doit rester. Mais ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est lorsque ce sont les députés français qui décident de la prolongation du mandat de Serval. Je ne sais pas ce que le Mali fait, ce que nos élus font. Parce qu'en fait, on sait que le peuple n'est pas d'accord avec Serval, le peuple n'est pas d'accord avec la France. Mais il y a des gens qui décident, qui sont sous une pression. Et souvent, la réaction du peuple ne les intéresse pas du tout. Maintenant, par rapport à ce que... Bachili disait tout de suite.
Koulibaly.
C'est que Koulibaly disait tout de suite. Là aussi, je ne partage pas entièrement son point de vue. Parce qu'on est d'accord que la France est venue à un moment donné. On ne peut pas nous dire aujourd'hui de faire dégager la France. Ce n'est pas possible. Ils ont encore un rôle à jouer parce que Hollande l'a dit, le Mali est libéré. Mais aujourd'hui, la France a des moyens, mais des moyens qui ne lui permettent pas du tout de libérer entièrement ce nord-là. Parce que réellement, le terrorisme a des racines.
Alors, qu'est-ce que la France doit faire maintenant, puisqu'on souhaite qu'elle reste ?
Je disais tout de suite, on parlait de l'union, disons, de la coopération européenne, de la coopération. Ça, c'est un facteur.
En plus de ça,
il y a aussi l'aménagement qui est là. Nous sommes d'accord que ce ne sont pas des gens qui sont venus combattre. Ça, ils ont été très clairs. Le Mali doit lui-même compter aujourd'hui sur ses propres forces, parce qu'il faut trouver les moyens aujourd'hui pour essayer, parce que la France l'a dit il y a longtemps, si vous pouvez, allez-y. On a vu qu'on a essayé et puis la catastrophe est venue.
Alors, Madame Togola Awa, est-ce que la MINUSMA est en mesure d'assurer aujourd'hui sa mission au Mali ?
La MINUSMA, elle seule, n'est pas en mesure d'assurer sa mission. Voilà, je pense qu'elle a besoin du renfort de Serval, même si Yaya n'est pas d'accord avec moi. C'est extrêmement important que ces deux forces-là collaborer, on se donne la main, Sunis, voilà.
D'accord. C'est votre avis, ma amie Baba Cissé ?
C'est mon avis. Je pense que, comme je l'ai dit tout de suite, il faut que ce soit une lutte collégiale entre le Mali et ses partenaires, parce qu'un seul pays, aujourd'hui, on a vu ça avec les Américains, ne peuvent pas vaincre le terrorisme.
Je vois qu'il y a envie de réagir. Oui.
Lutte collégiale, comme l'a dit Cissé, mais ça ne l'a jamais été. Regardez, quand le Premier ministre Moussa Maré est parti à Kidal, qui l'a abandonné entre les mains des bandits armés, et qui a armé même ces bandits armés. La question reste posée, mais elle est très claire, la réponse est très claire. Okay. Mais la MINUSMA a assisté le théâtre sans réagir.
Oui, mais ce n'était pas sa mission de réagir.
Non,
justement.
Mais elle pouvait quand même, n'est-ce pas, alors, tout faire pour empêcher qu'il y ait affrontement, parce que c'est les rebelles qui ont commencé, donc elle pouvait l'empêcher quand même. Donc c'est pour dire que, alors, moi, je ne suis pas d'accord ni pour l'aménagement ni pour Serval. Mais si quelqu'un doit rester, c'est sûrement l'aménagement, parce que la France, en tant qu'État indépendant, en tant que nation d'ailleurs, et le Mali en tant que nation, vraiment, cette histoire de Serval, moi, ça me saoule un peu.
D'accord. Sur ce, on va observer quelques secondes de pause. Nous revenons après.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté, 97.7 MHz. Radio Benkin, 97.1 MHz. Et la radio Guintan, la voix des femmes, 94.7 MHz.
Le forum de la presse, c'est sur le studio Tamani. Nos invités sont Togola Awasemega de Kunafoni.com, Yaya Koulibaly, directeur de la radio Nassira Oulé, et Ami Baba Cissé, directeur de la radio Sénin RFM. Troisième sujet à analyser, c'est le rapport publié aujourd'hui par l'OIM, Organisation internationale pour la migration, sur les déplacés au Mali. D'après ce rapport, le nombre de personnes déplacées touchées par le conflit de 2012 au Mali est en baisse. Ils sont environ 130 000, soit une baisse de 29,6%. Alors, Madame Togola, je me tourne encore une fois vers vous. Quelle lecture faites-vous de ce rapport?
Je pense que ce rapport-là, parce que je vois à Tombouctou, il y a 17 000 déplacés. Mm-hmm. À Gao, il y en a 10 000. Et pour Kidal, c'est 30 000. Je crois que le cas du Kidal est dû, en fait, aux récents événements. Parce que Kidal n'est pas stable et tout.
J'allais y venir.
Exact. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de prendre des mesures pour s'occuper de ces déplacés-là. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Il y a le problème économique, il y a le problème sanitaire. Et les ONG, à elles seules, ne peuvent gérer ce problème-là. Donc, c'est important que la population s'implique, que le gouvernement s'implique et que tout le monde s'implique pour pouvoir mieux trouver une solution à cela.
Alors, Yaya Koulibaly, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce rapport?
Je pense que je suis avec Awasemega quand je vois que vraiment il y a, c'est un problème très, très récurrent. À voir que des familles tout entières sont parties, il y en a qui ont perdu tous leurs biens, il y en a qui sont décimés psychologiquement, ça ne va pas du tout. Donc je pense qu'il faille trouver une solution pour accompagner ces déplacés. C'est quand même difficile avec un Mali qui a des moyens financiers limités. Alors, et les ONG aussi qui ont des problèmes parce que sur le terrain, l'opération est compliquée avec des bandits armés parsemés par-ci par-là. On ne sait pas où se trouvent des groupes de bandits armés. Mm-hmm. Donc, ça fait que la prise en charge est compliquée. Mais il faut juste faire un appel quand même aux autorités compétentes pour qu'elles viennent en aide à se déplacer pour réellement un peu, n'est-ce pas, penser leur plaie.
Oui, ça met en évidence la complexité des mouvements de population au Mali. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui, Ami Baba Cissé, pour l'État malien de mettre en place de contrôler ces déplacements en mettant des moyens?
C'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a bien longtemps. Mais malheureusement, le gouvernement, avec les multiples difficultés auxquelles il fait face, donc il n'a pas trop pensé à ça. Mais quand on essaie de voir aujourd'hui Tombouctou, par exemple, Tombouctou, on voit qu'il y a plus de déplacés qu'à Gao. C'est parce que ce qu'ils ont vécu ne les rassure plus. Parce que c'est vrai, à un moment donné, on les a rassurés, les gens sont retournés. Mais on sent aujourd'hui que ça ne va pas. Parce que le problème dans ce pays, on vous dit que ça va, même quand ça ne va pas. Mmh. Et lorsque les gens vous font confiance et que ça tourne au vinaigre, on ne peut plus vous croire. Mmh. Donc Gao, c'est des jeunes, c'est une population en partie qui se défend souvent. Donc là, il y a moins de personnes qui partent. Par rapport à Tombouctou, il y a plus de piété, il y a plus de soumission par rapport à certaines valeurs. Donc Tombouctou, les gens ne sont pas trop révolutionnaires. C'est pourquoi il y a des choses qu'on leur fait qu'on ne va jamais tenter de faire, de faire à Gao.
Et pour le cas de Kidal, c'est vrai que Kidal, il y a beaucoup de mouvements ces derniers temps. Qu'est-ce que vous préconisez?
Bon, Kidal, là où les forces armées m'ont quitté, je crois que pour la population, on ne va pas les en vouloir. Kidal, c'est vraiment une zone de non-droit et là, on comprend.
Ouais. D'accord. Parlons à présent des affrontements sur les sites d'orpaillage. Dans la journée du jeudi 3 juillet 2014, de violents affrontements ont eu lieu sur les sites d'orpaillage de Foroko et Kobada. Les affrontements ont fait 2 morts et 14 blessés. Du côté des forces de l'ordre, on dénombre 1 mort et 9 blessés graves. Dans les rangs des orpailleurs clandestins, une personne aurait perdu la vie et 5 autres ont été blessés dans cet affrontement, donc, selon des sources locales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ces affrontements? Je commence par Ami Baba Cissé cette fois-ci.
Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que dans ce pays, les autorités ont aujourd'hui, pour moi, dépassé le seuil de l'humanisme. Parce que tout le monde sait que la vie est chère. Les difficultés sont nombreuses. Lorsque des populations, par elles-mêmes, se permettent d'essayer de faire leur vie, de se débrouiller pour gagner quelque chose, le gouvernement, par un acte public, un acte juridique, décide de les priver de leurs moyens de revenus au profit d'une ou bien de deux personnes, moi je crois que se mettre un homme devant les autres hommes, et ça c'est quelque chose vraiment de condamnable. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui doit être prévisible, parce que les forces de l'ordre, quoi qu'on dise, c'est des gens qui reçoivent des ordres. On leur demande de faire, ils agissent. Et moi, j'aurais appris qu'il y avait une complicité entre ces gendarmes et ces orpailleurs, parce que c'est des gens qui donnaient aux forces de l'ordre quelque chose. Mais lorsque les forces de l'ordre ont tenté de faire monter les enchères, c'est là que le hic est venu et le divorce est consommé. Donc, normalement, le gouvernement doit clarifier cette situation. Les morts du côté des forces de l'ordre et du côté des civils, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et si c'est les gendarmes qui mènent les enquêtes, vous-même, il faut voir si réellement l'enquête sera claire ou non.
Yaya Koulibaly, comment expliquer un tel drame?
C'est vraiment un regret de savoir que dans ce pays, il se passe encore des choses comme ça. Mais moi, je pense que c'est un manque de respect des lois. Je pense que le gouvernement a été très clair. Je pense que le ministre Boubou Cissé a même fait une sortie à la télé il y a longtemps. Le gouvernement a interdit les activités hivernales à Kobada et à Forgo. Ça a été très clair.
Et aujourd'hui, on annonce deux morts même.
Donc, que les gens respectent leur propre nation. Quand on dit, ne faites pas ça, ne le faites pas. Et même là encore, des forces qui vont sur un terrain pour faire un constat. Alors, ils sont agressés. Une trentaine de gendarmes agressés. Ils vont réagir par grenade ou par gaz lacrymogène, bien sûr. Et alors, on se permet de sortir des fusils de chasse pour les tirer dessus. D'accord, c'est vrai que le Mali est pauvre, c'est vrai qu'il faut manger, il faut vivre, mais est-ce qu'il faut le faire, n'est-ce pas, d'une manière, alors, de sorte, n'est-ce pas, à violer les lois de la nation? Et même là encore, ceux qui sont sur le terrain, ils n'ont alors aucune autorisation, parce que la loi est très claire. Il y a ce qu'on appelle les dispositions de la loi numéro 2012-015 du 27 février 2012 portant code minier du Mali. Alors, qui autorise certaines personnes, n'est-ce pas, alors, à faire une telle activité. Mais ceux qui sont sur le terrain ne l'ont pas. Ils n'ont aucune légitimité. Et encore plus que les activités hivernales ont été, n'est-ce pas, interdites parce que c'est un lieu où la terre peut glisser, le sol peut glisser. Et en cas de glissement, alors, c'est des morts. Il y a eu deux morts, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu un affrontement. Si réellement, il pleuvait réellement,
aujourd'hui,
il pleuvait beaucoup...
Pour vous appuyer, glissement, aujourd'hui, il y a eu deux morts.
Ok, d'accord, mais s'il pleuvait encore plus, il y aurait plus de morts lors des glissements que lors de l'affrontement. Donc, le gouvernement joue son rôle d'apaisement, et sinon même, alors, de prévision. Donc, que les Maliens apprennent à respecter leur gouvernement. Quand on dit, ne faites pas ça, ne le faites pas. Mais quand il y a un problème, maintenant, on dit, le gouvernement endosse. Oui, il endosse, d'accord. Mais aussi que les Maliens sachent respecter les propos ou alors les mesures prises par le gouvernement. C'est très important.
Alors, ça pose le problème de réglementation au niveau de ces sites d'orpaillage, Mme Togula, n'est-ce pas là?
Tout à fait. Non, je pense que réellement, il faut organiser le secteur de l'orpaillage. Il ne faut pas l'interdire, certes, mais il faut l'organiser et l'encadrer. Parce que ceux qui viennent là, il y a beaucoup qui veulent avoir de l'argent à tout prix. Donc, il faut d'abord punir les responsables de ces affrontements-là. Il faut situer les responsabilités, parce que tout le monde va à l'orpaillage. Des bandits de grand chemin, c'est vrai qu'il y a des populations qui cherchent de l'argent, mais il y a beaucoup de bandits qui viennent s'insérer dans ce secteur de l'orpaillage-là. Donc c'est extrêmement important que le gouvernement prenne des mesures. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'orpaillage est devenu quoi? Un lieu de débauche, la drogue, il y a tout qui se passe là-bas. Donc c'est complètement du n'importe quoi. Il est important que l'État fasse vraiment quelque chose pour freiner ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes même qui quittent le secteur agricole. Tout le monde veut aller à l'orpaillage, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut de l'or. Donc, ce qui fait que l'agriculture même est complètement délaissée. Là, il faut trouver une solution rapidement.
Oui, on parle même de corruption au niveau des gendarmes. Ami Baba Cissé, vous en avez appris?
Bien sûr, oui, j'ai eu des informations concordantes à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite ici, ce sont les gendarmes qui doivent mener ces enquêtes par rapport à ces affrontements. C'est un rapport qui ne sera jamais honnête. Parce qu'ils vont toujours essayer de faire pencher la balance de l'autre côté. Koulibaly parlait tout de suite de la réglementation, disons, de la loi qu'on ne respecte pas.
Est-ce qu'il y a des textes qui régissent ce secteur?
Bien sûr qu'il y a des textes qui régissent ce secteur. Moi, je pense que l'État ne l'a pas interdit parce qu'on doit protéger les populations. Non, l'État l'a interdit parce qu'il y a ces Européens qui sont en conflit avec des particuliers, avec des compagnies d'exploitation. Mm-hmm. Donc là, c'est une interposition mm-hmm. en faveur de ces compagnies. Mm-hmm. Koulibaly a défendu un peu, comment on appelle ça, la loi. Mm-hmm. La loi n'est pas appliquée. Si la loi était appliquée, comme la disait tout de suite madame, le secteur là serait organisé. Sinon, il y a des textes qui régissent très bien. Le code minier, il existe et vous pouvez le consulter.
Et ça rappelle quelque part la restauration de l'autorité de l'État.
Absolument.
Oui, mais moi, je pense que la loi, qui doit l'appliquer, c'est vrai, c'est le gouvernement, mais qui doit respecter la loi, c'est
les populations. Pense,
les populations. Mmh. Et quand ils sont partis voir, c'était, n'est-ce pas, une équipe de surveillance, de prospection, alors pour voir si la loi est respectée. Alors, si on veut aussi empêcher... Alors les forces de surveiller ce qui est dit par le gouvernement, je pense que c'est un problème. Moi, je suis d'accord que il faut laisser les gens travailler, mais l'activité hivernale, on a insisté là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on sait que géographiquement, sinon géologiquement, c'est un terrain très dangereux. Donc c'est pourquoi on dit pendant l'hivernage, il faut vraiment arrêter l'orpaillage à Forogoué et à Kobada. Alors maintenant... Boubou Cissé aussi, je pense quelque part, il dit que lui, il est un peu déçu du fait que l'équipe technique de son département ne soit pas concertée par rapport, n'est-ce pas, à l'attribution des permis. Mm-hmm. Bon, ça c'est un problème, n'est-ce pas,
d'organisation.
Et puis surtout de compétences, parce que les collectivités territoriales qui sont sur le terrain donnent des permis à n'importe qui, sans passer par l'équipe technique. Alors, du département des mines, c'est aussi un problème. Mais ce qui est sur l'affrontement de l'autre jour, on pouvait l'éviter quand même, on pouvait l'éviter. Et ceux qui se sont fâchés, d'accord, ils se sont juste fâchés, ils se sont juste énervés. Bon, peut-être que la manière aussi d'aborder ces gens, ça n'a pas été à la hauteur. Sinon, moi, je pense que les gens doivent respecter les lois prises par l'État.
Et l'opposition appelle même à la mise en place d'une commission parlementaire pour situer les responsabilités et prôner le dialogue social pour éviter d'exacerber la situation. Qu'est-ce que vous en pensez, Ami Baba Cissé?
Bon, moi, je pense qu'on croirait plus un éventuel rapport de cette commission parce que là, c'est des députés de différents partis qui seront là-dedans. On peut citer à ce moment les responsabilités. Je crois que c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un qui vit de quelque chose de l'arrêter pendant 6 mois, regardez ce que ça fait. Je crois que même si on doit interdire l'exploitation pendant tout ce temps, trouver une alternative à ces gens-là.
D'où l'agriculture. Il faut retourner à l'agriculture. Voilà. C'est simple.
La solution, selon vous, c'est l'agriculture.
Je pense, oui.
D'accord.
Oui, mais je rejoins ces méga. Il y a des villages, tu vois maintenant dans les villages, tu trouves qu'il n'y a même pas un seul jeune dans tous les villages. Le village est carrément dépourvu de jeunes. Il n'y a personne. Il y en a qui font 10 ans. Ils n'amènent rien au village. Rien. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas défendre à tout bout de champ ceux qui sont dans ces mines-là. Il faut vraiment trouver une solution pour que réellement ce topage ne soit pas un problème. Aujourd'hui, il l'est. Mm-hmm. Alors, par rapport à l'opposition...
Rapidement, on est pris par le temps.
Okay, je pense que c'est bien ce que de l'opposition. On peut compter dessus.
Mm-hmm. D'accord. Merci à vos chers confrères. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse sur l'accord de coopération militaire entre l'Union européenne et le Mali, le rapport de l'OIM sur les déplacés du Nord, la reprise des négociations entre le gouvernement et les groupes armés et les affrontements sur les sites d'orpaillage. Togola Awasemega de Kounafoni.com, Yaya Koulibaly, directeur de la radio Nassiraoulé, et Ami Baba Cissé, directeur de la radio CNRFM, ont analysé ce sujet pour nous. C'était un plaisir pour l'équipe du Grand Dialogue de vous fournir ce numéro. Au micro, Sira Bachili, Ousmane Diadje Touré à la réalisation, Peting Diara et Salim Djouara à la technique. Merci de nous avoir suivis. Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.